Je vous invite à la prière. Seigneur, nous, notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour cet appel, encore une fois, à venir glorifier ton nom, à venir t'adorer, à venir écouter ta parole et cette possibilité de le faire ensemble, librement. Seigneur, nous ne mesurons pas toujours à quel point c'est une grâce de pouvoir ainsi se réunir librement. Nous te bénissons et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour que cette parole puisse nous toucher, qu'elle puisse produire en nous l'effet que toi tu attends qu'elle y produise et qu'elle puisse nous faire marcher à ta suite, à ta ressemblance. Qu'elle puisse aussi nous encourager à partager ce que nous avons reçu avec d'autres. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, ce matin, je vous propose de lire un petit passage de la première épître de Pierre, au chapitre 1, et c'est les versets 3 à 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Il y a une grande phrase, hein, vous avez vu, il n'y a pas de point. Voilà, ce passage ce matin est intéressant parce qu'il nous parle encore une fois de la conduite chrétienne et plus précisément de la position du chrétien. Alors nous avons déjà évoqué la question de notre identité et en fait celle de notre position est tout autant importante. Les croyants ici sont considérés comme des étrangers sur la terre, ayant une demeure dans les cieux. Et pendant qu'ils traversent ce monde, ils sont gardés par la puissance de Dieu. Ils sont aussi éprouvés par des afflictions, soutenus par Christ, l'objet de leur foi et de leurs affections. Ils ont reçu le salut pour leur âme et ils attendent en fait le salut final, en gloire, à la révélation de Jésus-Christ. Et pour un texte d'épître, celui-ci sort quand même de l'ordinaire. Parce que ce n'est ni une exhortation, ni une mise en garde, ni une réprimande, ni un enseignement. C'est une bénédiction. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc en tout premier lieu, avant de chercher à comprendre, à disséquer, c'est un appel à glorifier Dieu. C'est un appel à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits parce que c'est Dieu d'abord qui nous fait grâce. Il nous fait miséricorde, il nous fait une faveur en nous choisissant, nous qui ne le méritons pas plus qu'un autre. Oui, Dieu est bon. Il nous choisit et il nous offre le salut ainsi que tout le bagage nécessaire à notre vie chrétienne. La foi, l'espérance, l'amour, la patience, la persévérance, etc. Et les deux premiers versets, ceux qui précèdent le passage que j'ai lu, sont justement ceux qui présentent le croyant comme un étranger sur la terre. Quelqu'un qui est séparé du monde parce qu'il est élu par le Père, par l'opération aussi de l'Esprit et par l'œuvre de Jésus-Christ. Cette séparation, nous en avons aussi déjà parlé les dernières semaines. Mais c'est vraiment indispensable. Dieu nous met à part, il nous choisit. c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on intègre. Et nous apprenons ensuite que notre demeure, la demeure du croyant, est dans les cieux. Ce qui veut dire, en fait, si on analyse ce début de texte, ça veut dire que sur la terre, il ne nous reste rien, en fait. On n'a plus de maison et on n'a pas encore celle d'après, puisqu'elle est dans les cieux. Plus d'espérance ni de bénédiction ou d'héritage terrestre. Mais selon la grande miséricorde de Dieu, ces croyants ont été régénérés pour une espérance vivante. Et ils l'ont été par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors voilà, c'est des notions compliquées, mais des notions d'une importance extrême. Alors on va s'arrêter ce matin sur ces notions de régénération, d'espérance, de résurrection, et voir comment ça se conjugue. Toute l'espérance du croyant repose sur Christ ressuscité. C'est ce que Paul dit quand il affirme en 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Il dit un peu plus loin dans ce même passage, « Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Alors ces textes sont là pour nous rappeler que notre espérance est sûre et ferme parce que il, Jésus, est ressuscité. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien en fait. C'est une espérance qui est vivante parce que Christ est vivant. Alors c'est d'actualité, hein, puisque la semaine dernière nous fêtions Pâques, la victoire sur le mal et la mort, la résurrection de notre Sauveur. Et par cette résurrection, nous dit le texte ce matin, Dieu nous a régénérés. Alors là, c'est un mot peut-être qu'on n'a plus tellement l'habitude d'entendre, hein. On va s'arrêter un instant sur ce que signifie ce mot. D'après le dictionnaire, c'est quand même intéressant toujours de regarder ce que le dictionnaire nous dit, hein. Régénérer, c'est reconstituer un tissu vivant. Ou, petit 2, renouveler en redonnant les qualités perdues. Et c'est en fait exactement ce qui correspond à la réalité biblique. Sans le savoir forcément, hein, les dictionnaires des fois sont bien inspirés. Ça signifie que Dieu nous a ré-engendrés, renouvelés, il nous a fait renaître. Cette régénération, c'est en fait la restauration en nous de l'image de Dieu qui a été abîmée par le péché. Une recréation. Et c'est aussi l'instauration d'une communion de vie qui est nouvelle. C'est la raison pour laquelle on a tant de textes qui nous disent « Je fais toutes choses nouvelles, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes mort, vous étiez mort et puis maintenant vous êtes de nouveau vivant. » C'est tout ce changement-là dont il est question. Et la régénération, c'est l'œuvre souveraine de Dieu, le Saint-Esprit, qui accorde la vie spirituelle à chaque chrétien, qui le ressuscite en fait, on s'en rend pas compte, hein, qui le ressuscite d'entre les morts, de sorte qu'il soit capable, comme nouvelle création, de se repentir et de croire en Christ. C'est tout à fait mystérieux. Ça veut dire qu'avant cette œuvre divine en nous, nous ne sommes pas seulement pécheurs ou rebelles, nous sommes morts, tout simplement. Et Dieu, par cette œuvre de régénération, nous redonne vie, comme s'il soufflait en nous finalement. Un peu comme la vision des ossements desséchés dans Ézéchiel. Et il est important de saisir que l'homme n'a absolument rien à voir dans cette œuvre. Ça, on n'aime pas trop, hein, qu'on n'ait aucune part dans l'action, mais on n'en a pas. La régénération, c'est comme la création, ou la naissance, ou la résurrection. C'est l'œuvre mystérieuse de Dieu seul. L'homme ne peut rien là-dedans. Adam, par exemple, n'a pas demandé à être créé. Il n'était pas encore au courant. Le fœtus dans le ventre de sa mère ne demande pas, ne décide pas de naître. Ça se fait à son insu. Le mort ne peut pas demander non plus à ressusciter. Tout ça, c'est l'œuvre libre, souveraine, mystérieuse et miraculeuse de Dieu seul. Voilà, alors c'est une doctrine peut-être qu'on n'entend plus tellement, mais c'est une doctrine très importante, la régénération. Et on pense parfois que l'homme décide de croire en Dieu et que de ce fait, Dieu le régénère. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est tout à fait l'inverse. Tout part de la volonté de Dieu qui nous choisit, c'est ce que nous rappelle Pierre ici, hein. Il nous choisit pour que nous lui appartenions. Il souffle sur nous et en nous, et alors, après, naît la foi. En résumé, la foi de l'homme ne provoque pas la régénération, mais la régénération provoque la foi de l'homme. Vous voyez ? Alors non seulement la mort de Jésus nous offre le salut, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec le Père, mais sa résurrection nous régénère. Et cette renaissance a un but bien précis qui est expliqué dans le texte. Le but, c'est l'espérance vivante de l'eschatologie, c'est-à-dire du retour du Christ. L'espérance vivante de notre vie future en communion avec Dieu. Et tout ce que je viens de dire, c'est compris dans le verset 3. Incroyable la richesse de ce verset. La deuxième notion importante dans ce texte, ou en tout cas dont Pierre veut nous instruire, c'est la notion d'héritage. Cette espérance va de pair avec l'héritage qui est promis par Dieu. Et ce mot héritage, dans l'Ancien Testament, désignait la terre promise. Dans le Nouveau Testament, il fait référence au royaume qui est promis aux croyants, c'est-à-dire à la demeure céleste. Il s'agit là de l'éternité dans la présence de Dieu. Il s'agit des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la fin du règne de Satan, du péché, de la mort. Il s'agit du retour de Jésus-Christ. Il s'agit de la résurrection de nos êtres entiers, cette fois, hein, corps et âme. Et cet héritage céleste, en contraste avec celui qui est terrestre, est incorruptible, nous dit le texte. Il est sans souillure, il ne peut pas se flétrir, et il est conservé pour le croyant. Ça veut dire que Dieu met cet héritage dans un coin où personne ne peut y toucher. Personne ne peut l'abîmer, personne ne peut en enlever un morceau. Dieu le garde et le conserve pour nous. Est-ce que nous croyons cela ? Est-ce que nous l'attendons réellement ? Est-ce que c'est là notre espérance ? Jésus, nous l'avons vu, nous a réconciliés avec le Père en prenant sur lui notre péché. Et là, je fais appel à ceux qui étaient présents pour le séminaire avec Frédéric Travier, hein, sur le tabernacle. Là aussi, on a revu des notions qui sont vraiment importantes pour la foi chrétienne et qui sont plus tellement à la mode, mais sans ça, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Voilà, Dieu, Jésus qui prend sur lui notre péché, c'est ce qu'on appelle la substitution, le fait de se mettre à notre place. Il nous a réconciliés aussi en subissant la colère qui nous était destinée. Ça, c'est la propitiation. Et ensuite, la mort qui nous rachète. Et ça, c'est l'expiation. Voilà, ces mots qu'on n'entend plus et qui pourtant sont le fondement de notre foi. Par cette réconciliation que Dieu nous offre en Jésus, nous sommes pleinement enfants de Dieu. Nous n'allons pas le devenir. Parfois, on entend ça, hein, mais les verbes sont au présent dans la Bible. Nous le sommes déjà, réellement. Et c'est aussi dans ce sens que le mot « héritage » doit se comprendre. Nous sommes les héritiers spirituels des promesses faites par Dieu. Et cet héritage, nous dit le texte, nous est réservé. Personne ne peut y toucher. Alors là, vraiment, on saisit à quel point c'est une bénédiction et à quel point nous pouvons être tranquilles, en fait, en paix, quand on entend ça. La troisième notion sur laquelle je m'arrête, c'est la protection. Ce texte nous dit que Dieu nous a régénérés pour un héritage et qu'il nous garde. C'est la protection. Non seulement, donc, nous dit Pierre, les cieux sont réservés pour nous, mais pendant notre pèlerinage terrestre, nous sommes gardés de tous les dangers inhérents à notre passage dans ce monde. Et c'est bien la puissance de Dieu qui nous garde. Mais nous dit le texte, c'est par la foi que cette puissance s'opère. La puissance de Dieu, en fait, soutient la foi des siens. Et ces croyants sont du coup gardés pour le salut, qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Par la foi, nous pouvons déjà considérer la délivrance finale qui va nous introduire dans cet héritage. Alors non seulement nous sommes régénérés, non seulement nous sommes héritiers, mais nous sommes, vous le voyez aussi, gardés, protégés par la providence divine, dans la puissance de Dieu. Nous sommes gardés par notre foi et nous sommes gardés pour le salut qui sera révélé dans les derniers temps. Et la perspective n'est pas seulement individuelle et personnelle, elle est aussi communautaire. C'est la révélation du salut. Alors je vous dis tout ça pas pour vous assommer, j'espère que je ne vous assomme pas de théologie ce matin, mais plutôt pour qu'on puisse s'émerveiller devant le Seigneur merveilleux qu'on possède. Un Dieu qui vient nous chercher, qui nous choisit, sans aucune raison valable quand même, qui nous offre le salut par la foi, qui nous régénère, qui nous protège, en attendant de nous faire hériter du royaume des cieux qu'il garde bien précieusement pour nous. Est-ce qu'on mesure à quel point c'est extraordinaire? Comme un père ou une mère, Dieu nous protège. Et là, je crois qu'il y a de quoi être rempli de joie, en fait. Vraiment, avec un tel programme. Et Pierre nous dit même, en fait, on devrait tressaillir d'allégresse. Là non plus, c'est plus très à la mode. Hein. Tressaillir d'allégresse. Alors, il y a quand même une ombre au tableau hein, que Pierre ne nous cache pas. C'est l'affliction ou l'épreuve qui paraît quand même un peu contradictoire avec la joie ou l'allégresse. Et pourtant, être gardé par la puissance de Dieu des dangers du chemin, ça ne signifie pas que nous ne rencontrerons aucune épreuve. La perspective de l'héritage, ça peut nous réjouir, malgré le fait que nous sommes aujourd'hui parfois affligés par des épreuves. Et pour nous encourager dans ce texte, Pierre nous rappelle trois vérités en relation avec ces épreuves. D'abord, nous apprenons que nos épreuves ne sont que pour un peu de temps. Ça, c'est la durée. Deuxièmement, il nous est rappelé qu'il y a une nécessité à ces afflictions, parce qu'elles sont, nous dit le texte, pour un peu de temps, si cela est nécessaire, ou puisqu'il le faut, dans la traduction que j'ai lue. Et là, si on compare avec l'or, comme il nous est proposé dans ce texte, on le comprend peut-être mieux. On ne met pas l'or dans le feu pour prouver que c'est de l'or. On le met pour faire ressortir les qualités précieuses du métal et pour évacuer tout ce qui n'appartient pas au métal. De la même façon, Dieu éprouve notre foi par diverses tentations pour en manifester en fait les qualités précieuses. Et la foi qui compte sur Dieu dans l'épreuve conduit à la soumission à ce que Dieu permet, à sa volonté. La foi rend l'âme capable d'attendre avec patience, nous dit Jacques. La foi permet aux croyants d'être fermes face aux attaques de l'ennemi. Voilà, on peut avoir une vraie foi, mais c'est quand l'épreuve surgit que ces qualités précises sont révélées, en fait, sont mises en évidence. La soumission, la patience, la fermeté, la confiance, la dépendance de Dieu. Et troisième vérité sur les épreuves, nous apprenons qu'elles vont trouver une raison d'être, une réponse dans les jours à venir. Pierre nous dit que la manifestation de ses qualités au jour de l'épreuve vont tourner à la louange, à la gloire et à l'honneur au jour de la révélation de Jésus-Christ. Alors parfois, on a tendance à considérer comme du temps perdu, hein, les périodes d'épreuves pénibles. Parfois avec des bons arguments, parce qu'on est empêché d'œuvrer pour le Seigneur, on se dit quand même, quelle perte de temps. Mais Dieu nous dit, là, l'épreuve sera trouvée tournée à louange, à gloire et à honneur, le jour de la révélation de Jésus-Christ. Il sait sûrement les choses mieux que nous. Hein. Alors l'épreuve est nécessaire, c'est ce que nous rappelle ce texte. La qualité de notre foi est testée par ces épreuves, elle est purifiée, elle est améliorée, elle est fortifiée parce que notre foi est précieuse, plus que l'or. Et un autre encouragement qu'on trouve tout au long de l'Écriture, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve. Il nous accompagne, il nous console, il nous porte, il nous donne aussi les moyens d'en sortir. Et pour faire un parallèle, je pensais, quand on est parent, on voit bien que même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas éviter toutes les épreuves, tous les chagrins, tous les soucis à nos enfants. On aimerait bien, quand même. On essaye de les protéger un maximum, parce que, en fait, c'est douloureux pour nous de voir souffrir ce qu'on aime. Et pourtant, on ne peut pas tout leur épargner. Mais en revanche, on peut être présent à leur côté. On peut les écouter, on peut les consoler, les accompagner, les aider même à tenir debout parfois. Et on se rend compte souvent, bien après, que les épreuves de la vie, les chutes, sont finalement des passages nécessaires, parce que derrière, on en est ressorti grandi et fortifié. Alors ça, c'est très humain ce que je dis, mais c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne la vie avec Dieu. Parce que de la même façon, Dieu ne nous épargne pas toutes les épreuves, il nous arrive de trébucher. Mais quand cela arrive, on peut être vraiment assuré qu'il est à nos côtés, qu'il nous porte. Et parfois, on ne fait pas du tout attention au fait qu'il est là. Ça n'empêche pas d'être là. Qu'il nous aide à en sortir. Et surtout, que même si on tombe parfois très bas, son amour pour nous ne change pas. Il nous aime au point d'avoir sacrifié son propre fils pour nous épargner la conséquence du péché. Cette conséquence qui est la mort spirituelle, c'est-à-dire la coupure franche et totale, éternelle, d'avec lui. C'est Jésus qui a vécu cette terrible séparation pendant les 3 heures de ténèbres, quand il a été fait péché pour nous sur la croix. Le fameux moment où Jésus s'écrie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le moment où Jésus a pris sur lui toute la colère de Dieu pour notre péché. Le moment où il paye la dette qu'exigeait la justice et la sainteté divine. Et tout ça a été fait par amour pour nous. Jésus a payé tout cela à notre place et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Quel amour de Dieu pour nous, pour moi, qui envoie son Fils mourir à ma place. Quel amour de Jésus pour nous qui accepte d'aller jusqu'au bout. Et c'est parce que Dieu nous a aimés le premier qu'à notre tour nous pouvons l'aimer. C'est ce que nous rappelle aussi ce texte. Nous ne l'avons jamais vu, nous dit Pierre, et pourtant nous l'aimons. Bon, lui, il l'a vu, hein. Nous ne l'avons jamais vu, mais nous savons qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il règne. Et ça, c'est le cri de notre foi. Et là aussi, la foi, quand on veut partager ça avec les autres, il faut bien expliquer que la foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une certitude. On ne croit pas, on est sûr. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit Jésus à Thomas. Nous n'avons pas vu, mais nous savons. Nous savons aussi qu'il reviendra nous prendre avec lui dans la cité céleste où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni lamentations, ni souffrances, ni maladies. Alors gardons dans notre cœur toutes ces promesses et demandons à Dieu de renouveler notre zèle pour attendre sa venue dans l'espérance. Parce que notre zèle est bien souvent refroidie par la société autour de nous, par l'air ambiant. Nous n'attendons pas toujours le retour du Seigneur avec joie et allégresse. Peut-être sommes-nous trop accrochés à notre vie terrestre, malgré tout ce qu'elle comporte de désillusions et de peines. Peut-être sommes-nous trop attachés à nos biens ici-bas, à nos petites joies, parce qu'il y en a quand même, à notre relative liberté. Alors souvenons-nous que la vraie liberté, c'est Christ qui la donne. Et c'est une liberté qui nous donne de vivre dans la sainteté, loin du péché, loin du mal. Souvenons-nous que Dieu nous a mis à part en nous appelant au salut. Il nous sépare du monde, il nous attire à lui. Peut-être aussi sommes-nous refroidis parce que nous savons ce que nous allons laisser sur terre, mais nous ne savons pas vraiment ce qui nous attend. Ou plutôt, nous ne parvenons pas à le concevoir et du coup à nous l'approprier. Peut-être, pour certains, avons-nous peur du regard de Dieu sur notre vie, du bilan, sachant tout ce qu'on préférerait encore cacher. On peut trouver beaucoup de raisons à ce refroidissement. Mais ça nous éloigne de l'essentiel, parce qu'un tel texte, ce matin, vient nous frapper, vient nous réveiller de notre sommeil. Il nous rappelle avec force tout ce que Dieu a fait pour nous, et c'est ça l'important. Il nous engage à espérer, à attendre cet héritage, à rechercher ce royaume de Dieu qui vient. Il vient nous réveiller dans notre foi, dans nos pratiques aussi, pour nous faire attendre sans relâche le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et cette attente ne doit pas être tue, ni discrète, ni timide. Elle est au contraire synonyme, nous dit le texte, d'une grande joie, d'une allégresse qui nous fait tressaillir même dans l'épreuve. Ô Seigneur, donne-nous de regarder à toi et d'attendre ta venue dans la joie, dans la foi, dans l'espérance. Donne-nous de partager cela autour de nous. Donne-nous d'annoncer ton retour et ton amour à nos contemporains. Oui, que la parole de notre Dieu ce matin puisse nous redonner le goût de l'éternité en sa sainte présence, qu'elle puisse nous rendre impatients d'enfin le rencontrer. Amen.